Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission aujourd'hui, mardi 9 avril 2019, avec le journal. Et ensuite, nous allons également présenter le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. L'heure suivante, Mon Indonésie, magazine culturel, apprendre l'indonésien et une chanson indonésienne. Bon, chers amis, nous commençons par le journal et soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir, serviteurs et auditrices. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le ministère des Travaux publics et du logement public, PUPR, construit le plus long tunnel d'Indonésie. Maros est prête à combiner l'objet de tourisme et la culture. Le programme d'un million de pêcheurs souverains sera le programme excellent. Concernant l'huile de palme, l'Indonésie et la Malaisie co-envoient une lettre d'objection à l'Union européenne. 18 zones industrielles situées en dehors de Java pourraient absorber un investissement de 250 millions de rupiahs. L'Inde est le potentiel du nouveau marché pour les exportations de charbon du Kalimantan oriental. Voici le journal complet. Le ministère des Travaux publics et du logement public, PUPR, est en train de construire le plus long tunnel souterrain d'Indonésie d'un 3 km qui est situé en dessous de l'aéroport de Kulon Progo à Yogyakarta. Le ministre des Travaux publics et du logement public, Basuki Hadi Mulyono, a déclaré lundi dans un communiqué de presse à Jakarta que le plus long passage souterrain faisait partie de la route nationale Pansela ou côte sud de Java. Selon Basuki, la construction du tunnel vise à ouvrir l'accès de la route nationale Pansela Java, reliant Purwokerto et Yogyakarta. Parce que la construction de l'aéroport de Kulon Progo coupe l'ancienne route Pansela. Le gouvernement de la résidence de Maros est prêt à intégrer l'objectif touristique et la culture pour soutenir le programme gouvernemental Wonderful Indonesia. Le chef du bureau de la culture et du tourisme de la résidence de Maros, Muhammad Ferdiansyah, a déclaré lundi à Maros, Sulawesi du Sud, que l'une des attractions culturelles qui était encore préservée depuis des générations était la fête de la récolte traditionnelle Kato Boko, organisée par le chef coutumier du royaume de Makusu, Abdul Waris Karaing Sioja, avec la communauté locale. Selon Ferdiansyah, ce parti traditionnel collaborera à l'avenir avec l'Association des agences de voyage indonésiennes, ASITA, et l'Association des hôtels et restaurants d'Indonésie, PHRI. À l'avenir, la fête traditionnelle pourra également être vue par les touristes de l'extérieur de Sulawesi du Sud, car elle fera partie du calendrier touristique. Le ministère indonésien de la coordination des affaires maritimes a lancé un programme appelé « Programme d'un million de pêcheurs souverains ». Antara a rapporté que le ministre de la Coordination des Affaires Maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, avait affirmé lundi, lors du lancement de ce programme à Jakarta, que le programme d'un million de pêcheurs souverains serait le programme excellent du député de la Coordination de la Souveraineté Maritime et il espère que ce programme peut faire progresser le secteur maritime en Indonésie. Ce programme, qui est soutenu par des entreprises appartenant à l'État et l'Association du gouvernement chargé des îles et des côtes indonésiennes, sera prochainement mis en œuvre dans 300 régions ou villes côtières d'Indonésie. Les participants devraient attendre 300 000 pêcheurs jusqu'à la fin de l'an 2019. Le ministre indonésien de la Coordination des Affaires Maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que le gouvernement indonésien et le gouvernement malaisien avait envoyé une lettre d'objection à la Commission de l'Union européenne relative à la réduction de l'utilisation du biocarburant à base de palmier oil dimanche. Le ministre Luhut Panjaitan à Jakarta, Langbi expliquait que la lettre avait été signée directement par le président Joko Widodo et le premier ministre malais Mahathir Mohamad, comme cité par Republika Online. C'est une mesure conjointe car pour l'Indonésie, il s'agit du destin de 20 millions d'agriculteurs de palmiers à huile. Luhut a souligné qu'en général, la lettre conjointe entre l'Indonésie et la Malaisie était une tentative de transmettre des objections au plan de l'Union européenne, parce que, d'autre part, l'Indonésie et la Malaisie ont une part de 85% en tant que producteurs d'huile de palme provenant de pays du monde qui produisent également de l'huile de palme. Le ministère indonésien de l'industrie prévoit que 18 zones industrielles situées en dehors de Java seront opérationnelles en 2019. Les 18 zones industrielles devraient attirer un investissement de 250 millions de rupiah et absorber directement 900 000 travailleurs. Antara a rapporté que directeur des territoires industriels de la Direction générale de la résilience régionale de l'accès industriel international, Ignatius Warsito, dans sa déclaration à Jakarta, Langdi a déclaré que l'investissement jusqu'à 250 millions rupiah comprend également le développement d'infrastructures complémentaires comme centrales d'électricité, le traitement de l'eau, les usines de traitement des eaux usées, les terrains et les routes. Les 18 zones industrielles situées en dehors de Java sont situées entre autres à Loksmawe, Ladong, Medan et Tanjung Buton. Secrétaire, comme la fin de notre journal en titre, l'Inde est le potentiel du nouveau marché pour les exportations de charbon du Kalimantan Oriental. Mohamad Nur, le chef du bureau de représentation de la Banque d'Indonésie dans la province du Kalimantan Oriental, a déclaré que l'Inde deviendrait le plus grand marché pour les exportations de charbon de Bumi Etam, car la consommation de charbon cette année en Inde augmenterait de 4,5% par an. Pendant ce temps, la croissance de la production inférieure en Inde n'était que de 3,7%. Mohamad Nur Asamarinda a déclaré lundi qu'avec une croissance économique de 6,7% en 2017 et une population d'1,3 milliard d'habitants en 2017, l'Inde utilisait suffisamment le charbon. Selon les pays de destination, la plus grande exportation du charbon de Kalimantan est vers l'Inde et la Chine, avec des chiffres respectifs de 28,48% et 25,04%. Sabritar, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Chers amis, après le journal, comme d'habitude, nous vous présentons maintenant le commentaire ayant pour le titre « La dernière semaine de la campagne électorale indonésienne de 2019 ». Cette semaine, la campagne pour les élections législatives et présidentielles 2019 en Indonésie est entrée dans la dernière semaine. Conformément au calendrier fixé par la Commission électorale générale, le 13 avril 2019 est le dernier jour d'une campagne ouverte. Seulement 7 jours avant le vote, les visages des candidats aux élections législatives sont affichés partout, sur des panneaux d'affichage, des banderoles ou à la télévision. Tous doivent convaincre les électeurs de confier leur vote à des sièges parlementaires. De candidats à la présidence, Joko Widodo Ma'ruf Amin et Prabowo Subianto Sandiaga Uno étaient également actifs dans plusieurs régions de l'Indonésie. L'atmosphère de la campagne est plus dynamique. Les partisans de chaque candidat ont également manifesté de plus en plus leur soutien. Comme c'est passé le dimanche au stade Bung Karno, la communauté qui soutient Prabowo Sandiaga Uno a rempli le stade Bung Karno. Pendant ce temps, le candidat à la présidence Joko Widodo a mené une campagne ouverte à Tangerang devant ses partisans. Le discours de chaque candidat à la présidence et à la vice-présidence est devenu le principal événement de la campagne ouverte. La tension de contestation a considérablement augmenté en ligne avec le désir des deux candidats qui veulent se battre entre eux. Les campagnes ouvertes doivent être utilisées de manière optimale par les candidats à la présidence et à la vice-présidence, ainsi que par les candidats aux législatives. Parce que le temps de campagne ouverte est le dernier temps qu'ils peuvent utiliser pour obtenir un soutien. Pour convaincre davantage les partisans qu'ils ne se tromperont pas lors du vote le 17 avril. Le succès de la tenue des campagnes ouvertes est souvent associé au nombre de personnes présentes. Leur nombre peut en fait être une mesure du nombre d'électeurs soutenant chaque candidat à la présidence et à la vice-présidence. Ainsi, l'équipe gagnante des candidats utilise la mobilisation de masse et le convoi pour convaincre davantage les électeurs potentiels. On peut dire que les attentats et les appels de nombreux partis à l'égard de la campagne ouverte pour les élections 2019 sont comblés. L'atmosphère pacifique de dignité réclamée par l'organe de surveillance des élections a pu être réalisée. La campagne ouverte qui se déroule depuis le 24 mars 2019 a renforcé la confiance des électeurs pour qu'ils confient leur vote. La campagne ouverte montre également que le peuple indonésien est prêt à faire face à un parti démocratique de 5 ans. Le parti de la démocratie qui marquera le début de la détermination d'Indonésie au cours des 5 prochaines années. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 9 avril 1946, la journée de la force aérienne de l'armée nationale d'Indonésie. La force aérienne de l'armée nationale d'Indonésie, ou TNI-AU, est l'une des branches des forces armées chargées des opérations de défense de la République d'Indonésie. La force aérienne a d'abord été une partie de l'armée anciennement connue sous le nom de l'Armée populaire de sécurité ou TKR Bureau d'aviation. TNI-AU a été formée le 9 avril 1946 avec la création de l'Armée de la République d'Indonésie, conformément à la disposition du gouvernement numéro 6 l'année 1946. Dans l'histoire, le 9 avril était célébré comme le jour de la ratification de la force aérienne de l'armée de la République d'Indonésie et était également célébré comme la journée de l'armée de l'air. Puis célébré comme l'anniversaire de la force aérienne, même une fois célébré comme la journée de l'aviation nationale et après il est célébré comme la journée de l'armée de l'air de la République d'Indonésie. Le 9 avril 2010, le président Abdurrahman Wahid a permis la célébration de Nouvel An chinois en Indonésie au cours du gouvernement Nouvel Ordre de 1968 jusqu'à 1999. Les Chinois ont été interdits de célébrer le Nouvel An chinois en public. Il est basé sur l'instruction présidentielle numéro 14 l'année 1967, publiée par le président Suharto, qui interdit toutes les choses chinoises, y compris le Nouvel An lunaire. Mais le président Abdurrahman Wahid a officiellement publié le décret présidentiel numéro 19 l'année 2010, du 9 avril 2010, qui a inauguré le Nouvel An chinois en tant que fête facultative appliquée uniquement à ceux qui célébraient. En 2003, la présidente Megawati Sukarnoputri a été proclamé Imlek ou le Nouvel An chinois, l'un des jours fériés. Le 9 avril 2009, les élections générales des membres du Parlement, du Conseil des représentants régionaux et du Parlement régional d'Indonésie. Les élections générales des membres du Parlement, du Conseil des représentants régionaux et du Parlement régional d'Indonésie de 2009, soit l'élection législative 2009, a été tenue pour élire 560 membres du Parlement, 132 membres du Conseil des représentants régionaux et membres du Parlement régional au niveau provincial et régence en Indonésie pour la période 2009-2014. Le vote s'est déroulé simultanément dans presque toutes les régions de l'Indonésie le 9 avril 2009. L'élection générale des membres du Parlement 2009 a été suivie par 38 partis politiques. C'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie à Jakarta. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Comme vous avez demandé » chantée par Joy Tobing. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant mon Indonésie. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici mon Indonésie intitulé « L'Indonésie est toujours avec la Palestine ». Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que la saisie ou l'annexion des territoires palestiniens se déroulait lentement et de manière inhumaine. Au Forum des Nations Unies sur la Palestine, au siège des Nations Unies à New York, Madame Retno Marsudi a rappelé à toutes les pays de s'y opposer. Dans la page kemlu.go.id, la ministre Retno Marsudi a déclaré qu'outre la démolition de maisons et expulsion de résidents palestiniens, l'Israël fait diverses pressions politiques, économiques et sociales sur la Palestine, y compris la saisie des recettes fiscales palestiniennes, qui est une grande partie du revenu palestinien. Elle a expliqué que la violence des autorités et des migrants israéliens était également de plus en plus répandue, y compris la fermeture de la porte de la mosquée Al-Aqsa. À cette occasion, la ministre Retno Marsudi a également souligné que la Palestine était la priorité de l'Indonésie. Cette année, l'Indonésie a augmenté son assistance aux institutions des Nations Unies pour les réfugiés et a lancé un programme de renforcement des capacités du peuple palestinien. L'Indonésie tiendra également une réunion spéciale sur la Palestine pendant la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies en mai 2019. Madame Retno Marsudi a également appelé la communauté internationale à continuer l'aide humanitaire destinée à améliorer la vie du peuple palestinien. Elle a livré le message afin que l'État membre des Nations Unies, ne déplacent pas leur ambassade à Jérusalem et respectent les diverses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies liées à l'achèvement du problème palestinien. La ministre Rata Marsoudi a également rappelé l'espoir de recevoir la Palestine en tant que membre à part entière des Nations Unies. À présent, les Palestiniens et les puissances coloniales n'étaient pas dans la même situation. Il est de la responsabilité de la communauté internationale d'élever la position de la Palestine et de protéger les droits du peuple palestinien. Riyad Mansour, l'observateur permanent palestinien auprès de l'Organisation des Nations Unies, a remercié le gouvernement et le peuple indonésien. Selon lui, l'Indonésie est un bon ami de la Palestine et a exprimé sa gratitude pour les efforts déployés par l'Indonésie pour faire avancer la question palestinienne au sein du Forum de l'ONU. L'organisation du Forum des Nations Unies sur la Palestine a attiré l'attention de divers groupes et réunissait des représentants des pays membres des Nations Unies, l'Organisation non gouvernementale internationale, organisations internationales et d'universitaires. Les panélistes viennent d'anciens hauts fonctionnaires de Palestine, des activistes et des avocats des droits de l'homme et le rapporteur spécial de l'ONU. Le thème soulevé était la menace d'une annexion de fait. Dans le concept du droit international, l'occupation ou le contrôle territorial est temporaire. Mais ce que fait l'Israël à présent conduit à la saisie d'un territoire, ce qui est interdit par le droit international. Divers politiques israéliennes, surtout ces derniers temps, éloignent les Palestiniens de leur aspiration à l'indépendance. C'était Mon Irnésie, de la Voix de l'Irnésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi dom, degedegan daga digiduk. Dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu, kita kan tebarkan senyuman.
Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku, melayang ke layar.
Voice of Indonesia.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et chers amis, c'était la deuxième chanson intitulée Libre, chantée par Iwaka. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter magazine culturel intitulé Attractions touristiques de Sipat Lutuk. Sanggau est l'un des régions de la province de Kalimantan Occidentale, directement adjacente au nord avec le Sarawak, la Malaisie, fait cette région une région frontalière de l'Indonésie. En tant que région frontalière, la région de Sanggau possède la beauté naturelle qui attire de nombreux touristes frontaliers. L'un d'entre eux est la source thermale de Sipat Lutuk. En plus d'être belle, cette attraction touristique peut soigner diverses maladies pour les touristes qui se baignent dans l'eau chaude de Sipat Lutuk. L'objet touristique de Sipat Lutuk est situé dans le village de Peruntang, le district de Jangkang, la région de Sanggau, la province de Kalimantan Occidentale. Ce site touristique peut être atteint par la route Sanggau-Kembayan-Jangkang à une distance d'environ 168 km du centre-ville de Sanggau. La source sud de Sipat Lutuk est unique car il ne contient pas de soufre. La région de Sanggau n'a pas de volcan qui contient généralement beaucoup de soufre. La température de la source d'eau de Sipat Lutuk est d'environ 52 jusqu'à 55 degrés Celsius. Les eaux sont très claires et chaudes, parfaites pour ceux qui veulent se détendre et se relaxer. Le nom de Sipat Lutuk vient de la langue Jangkang Dayak. Sipat signifie rivière et Lutuk signifie chaleur intense. La population locale l'appelle aussi Ai Sipat Lutuk ou bien rivière d'eau chaude. Le gouvernement local continue de développer cette attraction touristique. Les installations s'améliorent bien. Entre autres, il y en a déjà les toilettes et la piscine. Chers amis, c'est un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Yeah. telah ku berikan semua. Tapi mengapa kau tak pernah percaya? Dua sisi dunia memang berbeda, tapi bukan untuk dipisahkan. Cintailah aku, ku damai di sisimu. Peluk aku, dekat
c'était une chanson intitulée Amour Blanc, chantée par Memes. Chers amis, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Et soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Écoutons maintenant une rubrique Apprendre l'Indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonjour tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler l'Indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet aujourd'hui est « Dengan siapa ?» ou en français « Avec qui ?» Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Dengan siapa ?» ou en français « Avec qui ?» Tony est dans la région du Temple Prambanan avec son ami Joko. Joko veut savoir avec qui Tony vient au Temple Prambanan.
Dengan siapa kamu kesini?
Sendiri. Kamu?
Dengan keluarga.
Di mana mereka?
Itu di sana.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir dengan siapa, en français, avec qui. Dengan siapa, en français, avec qui. Dengan siapa kamu kesini? Dengan siapa kamu ke sini? En français. Avec qui es-tu ici? Sendiri. Sendiri. En français. Seul. Dengan keluarga. dengan keluarga. En français, avec la famille. Di mana mereka? Di mana mereka? En français, où sont-ils? Itu di sana. Itu di sana. En français, c'est là. Teman. Teman. En français, ami. Pour demander qui vous accompagne pour aller ou venir utiliser des phrases dengan siapa? Dengan siapa? En français, avec qui? Comme par exemple, dengan siapa kamu ke sini? Dengan siapa kamu ke sini? En français, avec qui es-tu ici? L'autre exemple, dengan siapa kamu ke Indonesia? Dengan siapa kamu ke Indonesia? En français, avec qui es-tu en Indonésie? Pour répondre, si vous venez seul, dites sendiri. Sendiri. En français, seul. En phrase complète, vous pouvez dire saya ke sini sendiri. Saya ke sini sendiri. En français, je viens ici moi-même. Si vous venez avec quelqu'un d'autre, utilisez le mot dengan. En français, avec. Suivi de votre nom ou de votre relation avec la personne qui vous a accompagné. Comme par exemple, dengan Nina. Dengan Nina. En français, avec Nina. Dengan teman. Dengan teman. En français, avec un ami. Dengan keluarga. Dengan keluarga. En français, avec la famille. D'autres exemples. Dengan siapa kamu ke sini? Dengan siapa kamu ke sini? En français, avec qui es-tu ici? Dengan teman. Dengan teman. En français, avec un ami. Saya kesini dengan keluarga. Saya kesini dengan keluarga. En français, je viens ici avec la famille. Chers amis, avant de terminer apprendre l'indonésien, écoutons encore une fois l'exemple de la conversation en indonésien.
Dengan siapa kamu kesini?
Sendiri. Kamu?
Dengan keluarga.
Di mana mereka?
Itu di sana.
C'était la rubrique apprendre l'indonésien pour aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, nous continuons notre programme avec une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, l'Indonésie à tout le monde. Cette édition, nous allons vous présenter des informations sur la chanson malaise intitulée Sempaya de Vivin Vania. Sempaya est un gros fruit en rotin. Ce fruit est similaire au fruit de Zalaka. Son goût est aigre. À Palembang, cela s'appelle fruit sempayo ou asempayo. Ce fruit aigre est utilisé dans les paroles de cette chanson pour décrire l'acide de la vie laissée par un amoureux. Malgré la lyrique triste, la musique de cette chanson est toujours bonne à danser. Bon, serviteur, écoutons maintenant une chanson de Vivin Vania intitulée Sempaya. Bonne écoute et à demain!
apalah daya, selama hidup tidak beruntung. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Tetapi apalah daya, kekasih hati dirantau orang. Tetapi apalah daya, kekasih hati dirantau orang. Tapi apalah daya, sedang berkasih ditinggal pergi. Sempaya buah sempaya, sempaya dari Palembang. Sempaya buah sempaya, sempaya dari Palembang. Tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang. Tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang. Apalah daya, selama hidup tidak beruntung. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Sempaya buah sempaya, sempaya di Tanjung Karang. Tetapi apalah daya, kekasih hati dirantau orang. Tetapi apalah daya, kekasih hati dirantau orang. Tapi apalah daya, sedang berkasih ditinggal pergi. Sempaya buah sempaya, sempaya dari Palembang. Sempaya buah sempaya, sempaya dari Palembang. Tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang. Tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang.
Chers auditrices et auditeurs dans le monde entier, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. sur fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voynews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.